Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Au sommaire de ce magazine, le Hamas qui est sorti grand vainqueur des élections législatives palestiniennes, une nouvelle donne politique qui fait peur, mais qui dit changement, dit également nouveau champ des possibles. Nous entendrons les propos peu politiquement corrects de François Rabaté, réalisateur spécialiste de la région. Les drames de l'immigration, chaque jour des hommes et des femmes meurent victimes de leurs désirs et besoins d'ailleurs. En Italie, une exposition retrace le parcours de ces migrants quand le visiteur se met dans la peau d'un immigré le temps de quelques heures. Et puis plus de 80 ans après sa mort, les Russes ne savent pas quoi faire de Lénine. Son corps momifié est exposé dans un mausolée à Moscou, mais si les autorités décidaient d'enterrer le père de la révolution russe, une vieille polémique qui peut faire sourire, mais qui révèle un malaise historique en Russie. On en parle beaucoup depuis la semaine dernière. Le Hamas a donc remporté les élections législatives palestiniennes, un choc politique dans la région où les espoirs de paix s'amenuisent chaque jour. Et pourtant, derrière un nuage d'inquiétude, quelques rayons de soleil. Car si le Hamas est tristement réputé pour ses sanglantes opérations terroristes, son arrivée au gouvernement pourrait paradoxalement donner un coup de fouet à la situation géopolitique du Proche-Orient et peut-être rééquilibrer la donne entre Israéliens et Palestiniens. François Rabaté et réalisateur, il a très souvent tourné des films dans la région. Il parle d'une partie de poker où désormais tout est permis. Écoutez-le.
Au fond, le peuple palestinien a compris Machiavel comme le peuple israélien l'avait compris, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des dirigeants forts qui font peur à l'adversaire ou à l'interlocuteur plutôt que d'avoir des dirigeants faibles qui sont plébiscités par les adversaires ou par les interlocuteurs. Enfin, les choses bougent après des mois et des mois d'une situation parfaitement bloquée. Je pense que le Hamas est un parti qui va se révéler maintenant. C'est un parti qui était très manifestement à la recherche d'une légitimité et d'une reconnaissance au niveau international. Cette légitimité, cette reconnaissance lui ont toujours été refusées. C'est aussi un parti qui a une face légale et d'ailleurs plurielle, et puis également une face militaire activiste. Donc il est fort probable que le Hamas essaie de continuer à jouer sur deux plans, mais encore plus qu'avant, en accusant, je dirais, la face légaliste, pragmatique et peut-être raisonnable de son existence en tant que premier parti. Et puis, il y a fortement à parier que les groupes armés du Hamas continueront de faire peser une menace sur Israël. Au fond, si vous voulez, quand je disais ça bouge, je pense qu'il ne faut pas oublier, d'une part, que le Hamas est un parti beaucoup plus composite qu'on le pense ici et que la presse et que les médias en rendent compte. D'abord parce que ces derniers mois, le Hamas a attiré à lui, pour gagner les élections, de nombreux notables, de nombreuses personnalités du monde socio-économique qui ne sont pas idéologiquement issus de cette filière islamiste, frères musulmans, etc. Mais qui sont des gens qui étaient exaspérés par la gabegie de l'autorité palestinienne. Quand je parlais de force et de faiblesse, il ne faut pas oublier que l'erreur considérable qui a été faite a été la communauté internationale plébiscite un président à qui Israël retirait toute capacité d'intervention. Donc un président faible. Maintenant, c'est une nouvelle donne pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis absolument persuadé que ces élections vont renforcer les capacités d'intervention de Mahmoud Abbas. Il était lié au gouvernement, lié au Fatah. Il va maintenant, dorénavant, se retrouver en position d'arbitre. Il est bien sûr contesté dans ses propres rangs, mais au fond, l'homme clé de la situation en Palestine, c'est Mahmoud Abbas, il ne faut pas s'y tromper, ce ne sont pas les leaders du Hamas. Ces derniers mois, Mahmoud Abbas était dans l'incapacité d'exercer ses compétences d'homme politique. Au fond, le retrait unilatéral de Gaza a affaibli considérablement la position de Mahmoud Abbas. C'est-à-dire que le peuple palestinien, la rue palestinienne, s'est dit, mais au fond, ça sert à rien ce président, ça sert à rien ce gouvernement. Et tout le monde avait même oublié qu'il y avait un gouvernement et un premier ministre. Ahmed Korey n'existait absolument pas. Donc maintenant, il y a un parti composite qui se trouve dans une position de force, un président qui se trouve de nouveau, ou plutôt pour la première fois en réalité, dans une position d'arbitre. La politique palestinienne n'est plus uniquement identifiée par une sorte de notion de faiblesse. J'ai été très intéressé par la déclaration du chef du gouvernement israélien. Ehud Olmert a déclaré « Il ne faut pas nous laisser entraîner à des réactions hâtives. Israël est un État fort. » Et je crois que c'est vraiment la sémantique qu'il faut retenir de toute cette affaire-là. Israël est un État fort, ça c'est indéniable. Pendant les élections palestiniennes, les électeurs palestiniens ont voulu qu'en face de cet État fort, il y ait un interlocuteur qui soit fort. Alors, évidemment, c'est la force du poker, c'est la force des partenaires du poker, c'est-à-dire qu'il va y avoir une gigantesque partie de poker qui va s'engager. Je crois que la situation est telle que tout le monde doit jouer sur deux tableaux. Israël joue sur deux tableaux, la violence, la force, la négociation, la politique, la guerre. En Israël comme en Palestine, parce que c'est une situation de guerre, tous les acteurs dignes de ce nom doivent jouer sur ces deux tableaux. La politique, la négociation, le réalisme, le pragmatisme, la reconnaissance internationale, mais aussi, je suis fort, j'ai des armes, j'attaque. Alors, pas directement, mais à travers un certain nombre de groupes pour lesquels je peux dire parfois, ils sont avec moi, et puis parfois je peux aussi dire, non, mais c'est pas moi ça, c'est d'autres, c'est des inorganisés, etc. Par contre, je suis moi persuadé que le Hamas va donner des gages de réalisme et de pragmatisme à ses différents partenaires, et d'ailleurs, d'abord, aux partenaires américains. Que peut faire le Hamas? Il y a des choses qui sont négociables pour le Hamas. Je crois qu'il y en a d'autres qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire que dans un premier temps, actuellement, dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, la reconnaissance formelle d'Israël, de l'État d'Israël, n'est pas quelque chose que le Hamas est susceptible de faire. Peut-être qu'il y viendra petit à petit par une politique de petits pas. Par contre, il peut reconnaître sans reconnaître, négocier sans négocier, et de toute façon s'asseoir à des tables de négociation plus ou moins secrètes et plus ou moins officieuses dans un premier temps, puis officielles. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la finesse et l'intelligence politique des dirigeants du Hamas, d'autant plus qu'ils ont été portés au pouvoir par des électeurs palestiniens qui ne sont pas islamistes dans leur ensemble. La société palestinienne est une société très évoluée, très modernisée, qui ne ressemble pas du tout aux sociétés les plus islamistes du monde arabo-musulman. Mais les électeurs palestiniens ont voté pour le parti qui, d'une part, avait donné des gages de son efficacité en prenant à son compte une partie de plus en plus grande de l'action sociale dans les camps, qui avait suppléé les déficiences de l'autorité palestinienne. Et également, il ne faut pas l'oublier, un parti qui s'était élevé et qui continue à s'élever contre la corruption galopante dans les milieux proches du Fatah, de l'OLP et de l'autorité palestinienne. Alors, les Palestiniens ont porté au pouvoir un parti fort, mais les Palestiniens, n'oublions pas, la rue palestinienne veut la paix, mais pas la paix à n'importe quel prix et pas la paix n'importe comment.
C'était l'analyse de François Rabaté, réalisateur spécialiste d'Israël et de la Palestine. Il était interrogé par Hélène Destombes. Un homme ne connaît pas un autre homme tant qu'il ne s'est pas mis dans ses mocassins, une parole de la sagesse indienne qui est affichée à l'entrée de l'exposition Aller Simple, exposition qui est actuellement présentée à Rome. L'idée, se mettre pendant une heure dans la peau d'un candidat à l'immigration. Le visiteur choisit le personnage qu'il va être pendant le parcours, Asif du Bangladesh, Kyo de la Chine, Lorena de Colombie ou encore Katir du Soudan. Sur le parcours, une quinzaine d'acteurs vont rythmer le voyage du migrant en lui tendant les pièges de l'immigration. Contrôle aux frontières, problèmes administratifs, problèmes de langue, prostitution, comportement de la police et des services sociaux, tout y est. Nous avons rencontré l'un des animateurs de cette exposition, René, un Congolais qui est arrivé en Italie il y a 8 ans. Il joue le rôle d'un garde-frontière, peu enclin à la compassion, mais souvent tenté par la corruption. Témoignage.
Moi, je ne savais pas que j'allais finir à devenir un policier qui causerait, disons, que les gens puissent quitter le pays ou bien que les gens puissent émigrer, quoi. Alors, moi, je suis là, je suis à la frontière, je dois vivre. Moi, je représente l'autorité, quoi. C'est moi qui décide. Toutes les personnes qui se présentent devant moi, c'est moi qui décide. Et je suis désolé, quoi. Si c'est toi qui va se présenter devant moi et moi je te demanderai ce qui me sert pour vivre.
Face al muro, ragazzi, man in alto, ragazzi, man in alto. Face al muro, man in alto, ragazzi.
J'ai fait seulement interpréter une mentalité, quoi. Les gens qui veulent passer, je ne sais pas pourquoi je dois les dire de ne pas aller, que la personne qui a un visa. Et que je sais, il a eu ça à l'ambassade. Et moi, par contre, je sais, disons, les contraintes que, voilà, le visa n'est pas vrai, enfin de voir sa réaction.
Quelle est la date de ce document? Qui t'a date de ce document, signora? Qui t'a date de ce document, signora? Quand t'y a
24.
Comment t'y a mis?
Si vous êtes trop sûr que, voilà, vous avez un passeport qui a été délivré par l'autorité, alors, c'est à la personne de prendre, disons, de se défendre.
Signora, qui t'a donné quoi ça document de face, signora?
Le fatal comune.
Signora, mi deve dire la vérité, signora. Qui t'a donné quoi ça document de signora?
Le fatal comune.
Al comune.
Alors, si vous vous laissez intimider, qu'est-ce que moi je devais dire? Voilà, je suis rentré dans l'épiscose, disons, de la personne. Et voilà, j'ai l'argument sur quoi me baser. Et là, on peut arriver à la chose que moi, peut-être on peut le dire, on peut disons l'appeler corruption, que ça peut être pour boire, ça peut avoir de mille moyens, disons, d'être appelé, quoi. Si la personne s'est laissée attraper par mes questions ou bien par les stratégies du travail, alors je me dis, non, voilà, ce n'est pas de ma faute, c'est la personne qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire et il ne sait pas même devant qui il est et qu'est-ce qu'il doit défendre. Tu es arrêté? Je dois t'apporter aux autorités? Tu dois te défendre. L'exposition, elle est liée aussi à plusieurs vies des gens et de milliers de gens, de personnes qui sont parties de leur pays. Et la personne qui vient du Congo, par exemple, il fait un parcours différemment de celui qui part de l'Albanie. Alors nous représentons cette réalité sur place, et voilà, la personne qui vient de l'Albanie, peut-être il va prendre les bateaux pour venir en Italie. La personne qui part du Congo, il prendra les vols pour venir en Italie. Alors, nous avons des parcours différents. Mais quand nous arrivons en Italie, on se retrouve dans plus ou moins une même situation. Tout le monde, on devient clandestin. Parce que normalement, quand vous appelez tous ceux qui sont rentrés en Italie clandestins, alors on cherche à savoir qui est clandestin, qui est étudiant, qui est réfugié, qui est immigré, qui est prêtre. Parce que si on se retrouve dans une réalité telle en Italie, où il y a des milliers de prêtres qui viennent de pays différents. La personne que toi tu pensais que peut-être il est immigré, il n'est pas immigré. Il est peut-être ambassadeur, ou bien il travaille quelque part, ou bien il est prêtre quelque part. En train de faire vivre, ce n'est pas expliqué aux gens, mais en train de faire vivre. Hier, clandestin, demain, la même personne, il te demande le permis de séjour, tu sors le permis de séjour, tu es devenu régulier dans un pays. Alors, réfugié, c'est quoi? Il est reconnu. Il est reconnu en fonction de quoi? Et je suis une personne comme toutes les personnes. Mais avec l'adjectif lié à ma personne, René, réfugié politique.
C'était le témoignage de René, animateur de l'exposition « Aller simple ». Il était au micro de Laure Stéphan. L'exposition se déroule actuellement à Rome. Il est temps d'enterrer Lénine. Boris Eltsine, l'ancien président russe, demande de tourner une page de l'histoire de Russie. La polémique a repris l'année dernière. De nombreux politiciens demandent d'inhumer le père de la révolution bolchévique. Depuis sa mort en 1924, sa momie est exposée dans un mausolée sur la place Rouge à Moscou. Mais voilà, certains estiment que la Russie n'est pas l'Égypte et que les momies n'ont pas leur place dans la tradition orthodoxe. Le Parti communiste a commencé pour sa part à collecter depuis plusieurs mois en novembre des signatures sous une pétition pour que le corps de Lénine soit laissé dans son mausolée. Vladimir Poutine et le Kremlin pourraient commencer, eux, à sonder l'opinion publique, une vieille polémique que commente Georges Sokolov, éminent spécialiste de la Russie. On l'écoute.
L'idée avait circulé au moment où Boris Yeltsin était président. Elle avait déclenché évidemment une opposition farouche de la part du Parti communiste russe. En général, l'idée n'avait pas été retenue parce qu'on a considéré que ça coûtait plus que ça ne rapportait, en termes politiques bien évidemment. Le précédent connu, si je peux dire, ça s'est fait déjà, c'est Staline. Staline avait son mausolée, on l'a sorti de son mausolée et on l'a enterré sous les murs du Kremlin. Sans même clore d'ailleurs le cercueil d'un couvercle de ciment, on avait changé un certain nombre de choses à sa tenue, on avait décousu des boutons d'or pour mettre des boutons de laiton, enfin il y a eu toute une histoire au sujet de ça. Ça n'avait pas beaucoup plu, ça s'est passé du temps de Khrushchev, ça, et je crois que maintenant, le problème ne risque pas d'être résolu avant un certain temps, parce que il existe toute une tradition qui attache une partie de la population russe à son vieux chef.
En termes politiques, qu'est-ce que ça pourrait rapporter d'enterrer Lénine ?
Compte tenu de ce que représente la nature actuelle du pouvoir, ça rapporte pas grand-chose. J'ai entendu le président Poutine s'exprimer sur ce qu'il pense de la révolution russe. Il a considéré... Il a dit ça il y a 3 ou 4 ans, à un dîner où j'étais présent, et il a dit, écoutez, la révolution russe, c'est une chose qui était juste du point de vue social, et c'était quelque chose qui a très très mal tourné du point de vue économique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu inefficace. Mais ça ne comportait pas une condamnation de Lénine, ça comportait une condamnation de ce que le communisme est devenu après Lénine. Donc ben moi, je ne vois pas très bien l'entourage poutinien favorable à cette idée-là. Je ne vois pas très bien la population favorable pour la suite.
Et Lénine, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour le peuple russe ?
Lénine représente un personnage de l'histoire. C'est-à-dire que en fonction des phases d'évolution de l'histoire, nous connaissons ça chez nous aussi bien, on réécrit l'histoire un petit peu à la lumière du temps présent, à la période soviétique évidemment, et jusque, y compris la période gorbatchevienne. Lénine était un personnage très très important et qui idéologiquement était très très important. Ensuite, dans la période yeltsinienne, il a été, si je peux dire, mal vu, puisque Yeltsin prenait le contre-pied de ce qu'avaient fait les communistes. La période actuelle est une période où on enseigne qu'il y a une histoire de la patrie et que cette histoire de la patrie comporte une phase tsariste, une phase communiste, bon, les unes et les autres présentant des inconvénients et des avantages. Mais ce n'est pas un personnage maudit, c'est un personnage qui fait partie de l'histoire. C'est même pas Robespierre, parce que Robespierre serait plus critiqué dans la société française que ne l'est Lénine dans la société russe. Donc, voilà.
Qui va voir Lénine aujourd'hui dans ce mausolée ? Est-ce que ce sont les touristes ou est-ce que les Russes, de temps en temps, vont se recueillir ou en tout cas...
Les Russes, vous savez, il y a beaucoup de touristes russes. C'est une des caractéristiques de ce pays, c'est d'être immense et d'attirer encore une foule de provinciaux à Moscou. Donc, il n'y a plus du tout la même queue pour le mausolée de Lénine qu'il y avait auparavant, je veux dire, dans la période soviétique. la queue pour le mausolée faisait pratiquement le tour du Kremlin, ou en tout cas une partie du tour du Kremlin. Désormais, c'est beaucoup moins fréquenté, mais encore, avec des débarquements de touristes russes ou étrangers, il y a une visite du mausolée. Ouais. Ceci étant, d'un point de vue qui ne serait plus un point de vue historique, mais un point de vue humain et moral, il y a quelque chose de bizarre, évidemment, à aller honorer une momie.
C'est-à-dire ?
Oh, c'est-à-dire que c'est un point de vue très, très fétichiste et assez infantile. Ça fait partie d'un mythe qui a été transcendé au point qu'on a voulu lui accorder le même statut qu'on a accordé au pharaon dans l'Égypte ancienne, à cette différence près qu'en plus le pharaon restait visible. En outre, la mode, si je peux dire, a été imitée dans tous les pays communistes où un certain nombre de leaders ont été considérés particulièrement marquants, aussi bien en Europe de l'Est qu'en Corée du Nord, par exemple. Bon. Il y a un aspect à la momification qui est un aspect ridicule, mais d'un point de vue strictement politique, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un gain quelconque à déménager la momie.
Parce que momifier les corps, ce n'est pas une tradition russe, ce n'est pas quelque chose qui se fait en Russie.
Pas du tout, non, ça ne correspond strictement à rien. Ça a été fait dans l'idée de rendre Lénine immortel. Ça a été partiellement déjà battu en brèche par Staline lui-même, qui, tout en ayant été momifié aussi, a voulu se faire considérer comme étant le second Lénine. Donc Lénine était déjà un peu moins momifié quand Staline était là. C'est une histoire un peu bizarre. Si on rentre dans le culte comme ça des choses qui sont révérées par les peuples, je crois qu'on devrait trouver des bizarreries un peu partout qui ne seraient pas forcément des momifications. Peut-être que la flamme du soldat inconnu peut paraître bizarre à un certain nombre de gens. Je me souviens qu'en 68, si je me souviens bien, des étudiants étrangers s'étaient fait cuire une omelette sur la flamme du soldat inconnu à Paris.
Voilà, c'était l'analyse de Georges Sokolov, grand spécialiste de la Russie. Всякого врага и супостата Господу помог. О мире сего мира благословенны святи Божьи церковь и соединенных Господу помог. Сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святи помянушем сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу
Voilà, c'est la fin de ce Mondoscopie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, sur le site français de la rédaction de Radio Vatican. L'adresse est la suivante, le www.radiovaticana.org. Nous mettons à votre disposition la nouvelle technologie des podcasts. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Pour le prochain numéro de Mondoscopie, vous retrouverez Bernard de Cotigny. À très bientôt.